Europe 1.
10h, 11h.
Le grand rendez-vous Europe 1.
Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré.
Mathieu Bock-Côté.
Sonia Mabrouk.
Bonjour à vous et bienvenue à tous au grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes politologue, directeur de département opinion de l'IFOP et vous êtes également, Jérôme Fourquet, l'auteur du livre remarqué, La France d'après. Alors avec vous, on va analyser l'après-loi immigration et le chamboule-tout politique à l'œuvre, ce que révèlent aussi les fractures politiques sur ce sujet, alors qu'une grande majorité de Français sont cohérents en demandant plus de fermeté. Au programme aussi le macronisme. Est-ce la fin du en même temps, à l'épreuve du retour du clivage, semble-t-il, droite gauche. Il sera aussi question de la lutte contre l'insécurité sur laquelle les oppositions politiques sont très fortes. Alors pour vous interroger sur ce sujet, Jérôme Fourquet, je suis entouré de mes camarades Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour à vous Nicolas.
Bonjour Sonia.
Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu.
Bonjour.
Jérôme Fourquet, tout d'abord, comment vous expliquez la situation actuelle? Nous avons des Français qui n'ont jamais été aussi cohérents sur le sujet de l'immigration. Une grande majorité d'entre eux sont en demande de fermeté, tandis que la classe politique, ou plutôt une partie de la classe politique, s'entre-déchire sur ce sujet. Comment vous l'expliquez?
Alors, on voit bien que cette question de l'immigration est une ligne de clivage au sein de la société, même s'il y a une majorité de Français, à plus de 60%, qui souhaitent qu'on prenne des mesures de fermeté. Il y en a quand même à peu près un gros tiers ou 40% qui ne sont pas sur cette ligne. Et on le voit aussi que donc cette question de l'immigration fracture le paysage politique, comme ça a été le cas à l'Assemblée nationale. Là où on retrouve des choses assez cohérentes, quand on regarde les votes des députés sur le texte de loi, c'est que, quasi à une ou deux exceptions près, l'intégralité des députés de gauche ont voté contre la loi et l'intégralité des députés LR et Rassemblement National ont voté en faveur de cette loi. Donc on voit bien que cette question de l'immigration recrée du clivage gauche-droite. Là où les choses se compliquent, c'est dans le bloc central, puisque nous avons eu 27 votes contre et 32 abstentions sur un total d'à peu près 240 membres de ce bloc central. Donc ça dit deux choses, et on voit bien toute la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est d'une part qu'il y a un événement fondateur durant toute cette période, c'est le soir du deuxième tour des législatives où Emmanuel Macron n'a pas eu la majorité à l'Assemblée, et tout procède de ça depuis. Et la deuxième chose, c'est que la question de l'immigration était un relatif impensé du macronisme. Et si on ne l'a pas pensé chez les macronistes, c'est parce qu'on n'était pas d'accord. Et donc aujourd'hui, quand il a fallu voter ces derniers jours, eh bien, on a vu les lignes de faille réapparaître au grand jour. Et c'est ça qui fait. Donc ce n'est pas tant le paysage politique qui est déchiré, hein, parce qu'on est sur une opposition assez classique, que le bloc central qui pratique en même temps. Donc on a, j'allais dire, un peu ravalé la façade pour se donner une bonne consistance. Mais dès qu'on est rentré un peu dans le dur du sujet, on a vu que les tensions se sont avivées.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que la question de l'immigration aujourd'hui est la question clivante ou passionnelle par excellence? J'entends qu'il y a des questions où les oppositions sont pragmatiques, politiques, politiciennes presque. Et là, on est sur une question où des visions de la France peut-être irréconciliables s'affrontent.
Alors, c'est un des sujets, effectivement, parce que ça touche à des choses très profondes, la conception que vous faites de la citoyenneté, de la nationalité. On voit les prises de position très véhémentes d'un camp comme de l'autre. Et effectivement, c'est un sujet hautement inflammable. Et on voit qu'on est monté très vite en température, alors que quand on regarde le texte dans le détail, on voit qu'il y a souvent un monde, en tout cas une marge substantielle, entre ce que peut entendre ou ce qu'on pourrait en déduire face aux déclarations de tribune, et puis ce qu'il y a réellement dedans, parce qu'effectivement, tout le monde aussi fait de la politique, et tout le monde s'investit très fortement sur ces sujets, ce sujet qui passionne et qui déchaîne les passions.
Et est-ce que dans ce contexte, la philosophie libérale, qui est incarnée, disons, par le patronat, qui dit « on a besoin de main-d'œuvre », c'est audible?
Alors, c'est là où il y a un certain paradoxe dans l'opinion publique française, c'est-à-dire que dans une même enquête, vous pouvez avoir 65% de Français qui vous disent qu'il y a trop d'étrangers ou d'immigrés en France, et ça n'a pas bougé depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ce qui n'a pas bougé non plus, c'est que vous avez à peu près la même proportion qui nous disent qu'il faut régulariser les travailleurs clandestins ou sans papier qui occupent des postes. parce qu'on considère qu'ils jouent un rôle dans l'activité, la vie sociale du pays, l'activité économique, et que quelque part, ils occupent des postes aussi, c'est le sous-entendu, que beaucoup de nos concitoyens ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus occuper. Et donc, si on a la vision libérale qui consiste à dire la France a besoin de main-d'œuvre étrangère, il faut accueillir, si vous présentez les choses comme ça, ça risque de crisper. Si en revanche, vous partez du constat qu'un certain nombre de postes ne sont pas tenus aujourd'hui et ne peuvent être que tenus que par des gens issus de l'immigration, alors là, vous avez une chance d'être un peu davantage entendu. Si vous regardez, on les connaît, le secteur de la restauration, le secteur du bâtiment, le secteur du gardiennage, le secteur du nettoyage, les stadiers dans des stades de foot, hein, il y a juste une expérience sociologique assez basique à faire. Si vous prenez le RER ou le métro, on parle pour les franciliens, très tôt le matin, à 5h du matin, et vous verrez qui est la France qui se lève vraiment tôt, à 5h du matin, c'est cette France-là.
Et quel, sur le plan politique, selon vous, Jérôme Ferquet, qui va être le bénéficiaire? On a beaucoup dit tout au long de cette séquence sur l'immigration qui date, ça fait plus de quasiment d'un an et quelques qu'on évoque ce sujet, que le politique s'en empare, que les vainqueurs étaient les Républicains de Bruno Retailleau et d'Éric Ciotti, mais est-ce que les bénéficiaires ne sont pas le RN? Et est-ce que vous approuvez le fait qu'il y ait une forme de victoire idéologique du Rassemblement national?
Alors, il est peut-être un peu tôt pour se prononcer sur les véritables vainqueurs, puisque le Conseil constitutionnel doit encore rendre son avis. Et s'il arrivait que le Conseil constitutionnel détricote toute une série des mesures qui ont été négociées et obtenues par les Républicains, il faut se dire que tout ça, en fait, aurait accouché un peu d'une souris et il y aurait une forme de désaveu vis-à-vis des Républicains. Donc ça dépendra en partie de ce que statuera le Conseil constitutionnel. Une fois qu'on a dit ça, Marine Le Pen a joué très habilement, et donc elle sait faire de la politique en disant on donne un imprimatur à ce texte de loi qui n'est que le commencement de ce qu'il faudrait réellement faire, mais comme un élève qui encourage, un professeur qui encourage un élève méritant en disant en progrès peut mieux faire.
L'élève, donc, c'était voilà, Emmanuel Macron.
C'était Emmanuel Macron en disant voilà, vous rendez sur nos positions, vous commencez à prendre conscience de la réalité des choses, et donc. Dans notre grande mansuétude, on va vous donner ce point. Donc de ce point de vue-là, c'est bien joué. Et on voit qu'elle en fait beaucoup sur la question de la préférence nationale en disant, dans une lecture gramsciste des choses, on a gagné la bataille culturelle et la bataille idéologique, on reprend nos termes. Et même si c'est que le début du commencement en termes de mesures, la logique est celle-ci. Donc sur la fin de partie, elle a plutôt bien joué. Maintenant, encore une fois, attention, nous sommes des commentateurs, des analystes, et donc... c'est un peu notre rôle de travailler sur ces textes, sur tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais ce sur quoi les Français jugeront, c'est sur le réel et sur la réalité du terrain. Et sur est-ce que ou non, à un moment ou à un autre, ils auront le sentiment que la question des flux migratoires, des reconductions aux frontières, de l'intégration ou de l'assimilation, est-ce que les choses avancent dans la bonne direction ? Ou est-ce qu'on est toujours dans la configuration actuelle, qui est une configuration qui montre que la puissance publique subit plus qu'elle n'encadre et ne régule.
Justement, vous avez évoqué la question de la préférence nationale. Est-ce qu'il s'agit véritablement pour le commun des mortels? Donc non pas pour les analystes, les commentateurs, les spécialistes de la chose publique, mais pour le commun des mortels. Est-ce que la préférence nationale, qui est présentée comme les uns comme un principe nécessaire et par les autres comme un scandale, est-ce qu'elle fait véritablement scandale chez l'électeur moyen?
Alors, on n'a pas posé de questions récemment dessus, mais les enquêtes historiques montrent, elles encore, que c'était très clivé, avec un électorat de gauche qui était assez opposé à ce principe, mais pas mal d'autres électorats qui adhéraient à cette question. Avec, là aussi, on peut s'interroger sur le débat qui existe, c'est-à-dire, prenons le cas de la fonction publique en France. Pour occuper un poste dans la fonction publique, il faut avoir la nationalité française. Et ce n'est absolument pas remis en question dans le débat public. Et personne vous dit que c'est une illustration honteuse de la préférence nationale. Ensuite, il y a la question des allocations, des aides plus ou moins contributives, en disant est-ce qu'un étranger qui travaille et donc cotise a le droit de bénéficier de ce type d'allocation? Je pense que là-dessus, il y a une majorité de Français qui seraient d'accord. Maintenant, est-ce qu'un étranger qui vit en France et qui ne travaille pas et donc qui ne cotise pas a le droit à bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales? Là, je pense que les Français, majoritairement, sont plutôt favorables à ce que ce ne soit pas le cas.
Derrière le texte sur l'immigration, Jérôme Fourquet, c'est la question européenne aussi et surtout qui est en toile de fond. Avant justement le scrutin européen, il y a la question de la primauté du droit français, des frontières, de notre souveraineté aussi. Ce sont des questions éminemment politiques, là, qui sont en train de s'inscrire dans le marbre et qui vont évidemment être un très grand, une boussole pour ce scrutin à venir.
Oui, alors une nouvelle fois, tout cela montre une forme d'impuissance publique où les limites qui sont posées à notre souveraineté, en ce sens que si le Conseil constitutionnel venait à retoquer un certain nombre de mesures, ce serait en raison de la non-conformité au droit français, mais aussi, plus certainement, à une forme de non-conformité vis-à-vis des traités. Et donc, petit à petit, on voit émerger dans le débat public l'idée selon laquelle la jurisprudence européenne, un certain nombre de traités ou de normes internationales nous empêchent de mener ou limite nos prérogatives et nos pouvoirs d'action. Et donc, jusqu'à présent, une majorité des politiques ont raisonné à périmètre constant en disant on se présente à l'élection et on va mener des politiques publiques dans le cadre qui est celui dont nous héritons. Et un certain nombre de personnalités politiques, je pense notamment à Laurent Wauquiez dans une interview qui avait été assez remarquée, dit « Voilà, si aujourd'hui on veut mener la politique qu'on souhaite mener, il va falloir assumer qu'on révise ce cadre et que éventuellement on casse entre guillemets un peu de vaisselle ou beaucoup de vaisselle en disant voilà, nous on ne peut plus se satisfaire de cela. » Et ça, c'est un discours qu'on entendait assez peu il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Alors pour quelles raisons l'entend-on plus? D'une part parce que la jurisprudence européenne prospère et d'autre part parce que les problèmes qui sont posés notamment en matière de flux migratoires ou autres, sont d'une nature assez différente de celles qu'on connaissait.
C'est important ce que vous dites, c'est devenu un marqueur, c'est-à-dire qu'il y a quelques années aussi, d'ailleurs en tant que journaliste et commentateur, c'est une question qui n'infusait pas tellement dans le débat
public. Donc c'est en train de monter.
Aujourd'hui, c'est une prise de conscience.
Bah, pour certains d'entre eux, ouais. Et il se trouve qu'on va avoir des élections européennes, et donc ça va être le bon moment aussi pour débattre de ce genre de choses. Là-dessus, Emmanuel Macron est très cohérent. Sur un certain nombre de sujets, le macronisme a évolué dans ses positions. En revanche, sur la question de l'attachement à la construction européenne, ça a été un fil rouge de tout le discours et de toute l'action politique d'Emmanuel Macron, qui, encore une fois, là-dessus, est resté très constant. Vous savez, il a même une expression, un peu dans la novlangue macroniste, il dit « nous ferons ça en européen oui. », hein, qui revient souvent en européen. On l'a vu pendant le Covid. Et le tabou ultime en Macronie, hein, c'est la question de remettre les frontières, y compris pendant la pandémie, avec la fameuse formule « le virus n'a pas de passeport ». Et donc, il était hors de question de remettre, de remettre en marche ou en fonction les frontières intérieures. Et donc, on voit bien que le rapport à côté de l'immigration, il y a aussi la question du rapport à l'Europe, ce que j'essaie aussi d'expliquer dans le livre, qui est devenu une ligne de clivage majeure et qui a expliqué la reconfiguration politique et qui a contribué à faire exploser et la gauche et la droite. Parce que dans les rangs de la gauche et dans les rangs de la droite, le degré d'adhésion au modèle européen n'était pas forcément le même. Et nous sommes confrontés régulièrement à cette question-là, d'où la recomposition dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui.
On va marquer une pause et continuer à en parler. Jérôme Fourquet, avec vous, c'est passionnant. Et avec Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré, donc la question européenne révélateur politique. Et puis on va essayer d'interroger sur, en même temps, est-il tenable? Et notamment sur les questions régaliennes. On va parler également de sécurité ou d'insécurité. Une courte pause et on se retrouve.
10h, 11h,
le grand rendez-vous européen.
Avec Les Échos et CNews.
La suite du grand rendez-vous avec notre invité, le politologue Jérôme Fourquet, auteur notamment du livre « La France d'après ». On va parler de cette photographie de la France d'après. Mais tout d'abord, une question de Nicolas Barré.
Oui, on l'évoquait, il est fort possible que le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi immigration. Est-ce que dans votre analyse de l'opinion publique française, vous sentez qu'il y a un risque sur la légitimité, au fond, du Conseil constitutionnel, que les Français se disent tout ça, c'est un gouvernement des juges qui prend le pas sur le Parlement?
Alors oui, en partie. Et l'effet collatéral, c'est aussi de s'interroger sur la pertinence de l'action parlementaire, en se disant soit les juges outrepassent leurs droits, soit les parlementaires ne connaissent pas le droit et nous ont entraînés dans un espèce de jeu de théâtre en déposant des articles, en rédigeant des articles dont on savait pertinemment qu'il serait retoqué ensuite derrière. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir à l'écoute des propos de la Première ministre et du Président de la République qui ont dit que sans doute il y aurait des articles qui ne passeraient pas la rampe du Conseil constitutionnel. Tout comme si on s'était dit du côté de la majorité présidentielle, on peut lâcher et faire plaisir au LR sur tel ou tel petit marqueur, parce que de toute façon, ça ne coûtera pas très cher et qu'au final, les garde-fous du Conseil constitutionnel s'appliqueront et que ces mesures seront retoquées.
Comme donc, si c'était une deuxième délibération, au fond.
Oui, une forme de deuxième délibération. Et donc, ça interroge sans doute pour la partie des Français qui s'intéressent encore et qui suit un peu dans le détail ces sujets sur l'équilibre de nos pouvoirs et le fonctionnement aussi de nos institutions. La question du Conseil constitutionnel, mais on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, la Cour européenne de justice, la CEDH, et donc ça a été, par exemple, un dossier assez emblématique, ce fameux Ouzbék radicalisé qui était envoyé en Ouzbékistan, et dont les instances européennes et le Conseil d'État, en application des directives des instances européennes, disent qu'il faut rapatrier cet Ouzbék ici en France. Et crânement, le ministre de l'Intérieur dit non, on va payer l'amende, mais hors de question qu'il revienne. Et donc, les Français, quand ils regardent tout ça, sont un peu saisis face à ce type de fonctionnement.
Mais justement, ils sont saisis, ils sont étonnés, mais dans la mesure où on peut le savoir, s'ils doivent trancher entre une légitimité, le Parlement ou les juges, ou une autre légitimité, la nation ou l'Europe, comment se classent-ils généralement ?
Alors, ils plaident pour leur paroisse, si je puis dire, et donc vous voyez que dans toutes les enquêtes qui sont faites sur ce sujet, on a une très forte appétence pour le référendum. Donc là, c'est encore plus radical, c'est même pas forcément le Parlement, c'est donc en dernière instance, et donc de ce point de vue-là, c'est une lecture littérale du fonctionnement démocratique, c'est le peuple souverain, hein, c'est comme ça qu'on dit, ou qu'on disait, c'est le peuple souverain qui doit trancher, et c'est ce que pense une majorité de nos concitoyens. Alors ensuite, il y a un peu de mauvaise foi de part et d'autre, puisque parfois, on peut se retrancher derrière ces instances diverses et variées quand elles défendent un point de vue qui vous est cher, en disant « mais non, là, c'est peut-être un peu hasardeux de laisser la délibération au peuple, parce que ça pourrait nous emmener dans des affres populistes hein. ». Donc ça peut parfois un petit peu varier, donc il y a une part de calcul et d'habileté politique, mais globalement, l'opinion publique reste sur une conception assez traditionnelle du principe démocratique en disant en dernière instance en démocratie c'est le peuple qui doit trancher et même si on ne remet pas en cause le mécanisme de la démocratie représentative on aspire à ce que le peuple soit consulté en direct plus régulièrement notamment sur ces grands sujets qu'il s'agit de trancher.
Mais Emmanuel Macron ne prend pas en tous les cas ce chemin. Jérôme Fourquet, justement, pour le président de la République, pour le macronisme, est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle, à l'aboutissement de quelque chose ? Ou est-ce qu'en réalité, il faut le voir et l'analyser froidement et de se dire qu'Emmanuel Macron est en train de payer une réalité implacable sous la 5e quand il n'y a pas de majorité absolue, il n'y a pas tellement d'issue ?
C'est l'analyse que je privilégie, hein, c'est-à-dire encore une fois, c'est le deuxième tour des législatives qui a donné le là pour tout le quinquennat. Emmanuel Macron, confiant dans sa capacité à convaincre les uns et les autres et dans sa maestria politique, a considéré qu'il allait pouvoir s'en accommoder et qu'on allait pouvoir trouver un certain nombre de solutions, d'où les grands rendez-vous de Saint-Denis, d'où les grandes conférences, les adresses directes à la population, pour essayer de contourner ce verrou parlementaire. Sauf qu'on voit que quand on est vraiment dans le dur, eh bien les choses ne se passent pas comme prévu, avec une circonstance aggravante, je reviens dessus, le fait que son bloc central était divisé sur cette question. Il n'y a pas eu autant de tensions sur la réforme des retraites, par exemple, où son bloc était plus cohérent, même s'il y avait quelques voix dissonantes. Et donc là, ce qui se passe, on est souvent friand de formules en disant c'est un tournant du quinquennat, tout ça. Donc on verra, soyons prudents et modestes. Mais ce qui est sûr, c'est que les oppositions, parce que ça aussi c'est une particularité du monde d'après, de la France d'après, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas une, mais des oppositions parlementaires, ont pris conscience que de manière coalisée, même pour des raisons diamétralement opposées, on pouvait mettre en difficulté un président qui est assez détesté, il faut bien dire, de la part de ses oppositions.
C'est intéressant parce que vous dites pour une coalition pour des raisons très différentes. Et justement, l'argument a été utilisé par la majorité, par l'exécutif, pour dire, mais regardez, c'est le mariage du lapin et de la carpe et du lapin, mais ça n'a pas pris finalement. Donc on pourrait, selon vous, Jérôme Fourquet, voir de nouveau cet assemblage de briques et de brocs ?
Alors oui, parce que je pense que vous prenez goût au sang, c'est-à-dire que quand vous avez fait chuter l'adversaire une fois, vous dites qu'on peut le refaire une autre fois. Alors, comme le disait Mathieu Bock-Côté, c'est pas un hasard non plus si ça se fait sur l'immigration. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est tellement inflammable que là, tout le monde est monté au créneau de manière simultanée. Alors, ce n'est pas forcément la jurisprudence qui va s'appliquer sur chaque nouveau texte gouvernemental. Sur d'autres sujets, je pense qu'on va avoir des oppositions qui seront peut-être un peu moins véhémentes. Mais dès qu'on va revenir sur des sujets tendus, il y aura cette jurisprudence qui a fait qu'on a pu mettre, quand on était dans les oppositions, en échec, le président de la République. Et puis, le temps file. Emmanuel Macron a indiqué il y a quelques jours dans son émission de télévision qu'il restait 3 ans et demi, qu'il entendait agir jusqu'au bout. Mais plus on va s'approcher de la fin du quinquennat, plus on va s'approcher des échéances électorales intermédiaires, plus chacun va essayer de faire de la politique et essayer de mettre en difficulté le camp présidentiel.
Alors, au moment de son apparition, le macronisme, c'était la jeunesse, le mouvement, réformisme conquérant et tout ça. Aujourd'hui, que reste-t-il dans l'esprit du commun, encore une fois, pardonnez-moi, du macronisme? Vous avez évoqué l'Europe, mais pour le commun des mortels, que représente le macronisme idéologiquement aujourd'hui?
Alors, il y a cette question, européenne, et ce qui a marqué, je pense, au long cours, les esprits, c'est les réformes économiques. Notamment, on y reviendra peut-être tout à l'heure, la réforme des retraites, qui sur l'année 2023 nous a occupé, le temps passe vite encore une fois, on oublie souvent, mais pendant plusieurs mois, de très grandes manifestations, des journées de grève, une mobilisation assez historique. Et donc ce moment-là, associé aussi à la réforme et la suppression de l'ISF, aux APL, à la politique, ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire pour accroître la compétitivité des entreprises, baisser les impôts de production, une partie des milieux d'affaires, des milieux économiques se disent tout n'a pas été bien fait, mais ça a été plutôt dans le bon sens. Et puis une autre partie de la population considère que c'était une politique, comme on dit, néolibérale, trop dure. On mentionne également la modification du régime d'assurance chômage, etc., etc. Donc c'est plutôt, je pense, les éléments à tonalité économique qui vont teinter ou colorer le regard qu'on porte en positif ou en négatif sur ce quinquennat et demi qui s'est déjà écoulé sous Emmanuel Macron, même si le débat là sur la loi immigration laissera des traces. Encore une fois, nous ne sommes pas à l'abri d'un retoquage assez sévère d'un certain nombre de mesures, et là on repartirait un petit peu dans le vaudeville politique.
Jérôme Fourquet, dans quelques instants, on va marquer une pause. On va parler d'insécurité, des mots aussi qui ont marqué finalement cette année, et puis de la France d'après. Simplement une question. Et maintenant, quel souffle, quel sursaut pour Emmanuel Macron? Il a dit qu'en début d'année, il a annoncé une initiative, apparemment qui se rapproche peut-être du domaine de l'école. Mais est-ce qu'il y a encore un lapin dans le chapeau du président de la République?
Alors, il faut faire confiance à sa capacité d'imagination. Il a quand même le pouvoir d'initiative sous la Ve République, c'est pas rien. Pour rebondir sur ce qu'on disait avec Mathieu Bock-Côté, il y a aussi sans doute une volonté du président de la République, à côté de ses réformes économiques et de cette poursuite de construction européenne, c'est de marquer ces quinquennats du sceau du progressisme sociétal. Et on a un grand rendez-vous avec la loi sur la fin de vie, qui ne sera pas un petit sujet. C'est sans doute en partie là-dessus qu'Emmanuel Macron compte s'investir dans les prochains mois, en attendant le grand rendez-vous qu'on attend en Macronie, c'est-à-dire les JO, sur lequel on compte beaucoup du côté de l'exécutif pour tourner les pages.
Bien, vous amenez le sujet à venir, parce que qui dit JO dit aussi sécurité, insécurité, délinquance. On marque une courte pause, on va évoquer ces sujets, et toujours avec cette France d'après que vous esquissez dans votre livre. À tout de suite. Le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos avec notre invité Jérôme Fourquet, politologue, auteur de La France d'après. Nous avons évoqué les suites de la loi immigration, les conséquences sur le macronisme. Jérôme Fourquet, nous approchons de la fin de l'année, une année qui a été marquée aussi par des épisodes tragiques comme celui de Crépol avec la mort de Thomas, mais aussi l'attentat à Paris. Et lors de ces deux faits, il y a eu des fractures politiques très fortes, notamment sur Crépol, où la majorité n'a pas voulu voir tout de suite, n'a pas voulu voir qu'il s'agissait de son point de vue d'un fait de société, avant de le reconnaître du bout des lèvres. Olivier Véran avait parlé d'un risque de basculement de la société. Comment vous analysez tout cela ?
Alors vous pouvez ajouter aussi, dans la rétrospective de l'année, les émeutes de juin-juillet, hein, 500 quartiers qui se sont, plus de 500 quartiers qui se sont embrasés en France. Alors, sur l'affaire de Crépol, on débat souvent sur est-ce que c'est un fait de société ou un fait divers ? Et moi, je considère qu'un fait de société, c'est une somme de faits divers. C'est que quand il y a plusieurs faits divers qui se répètent, ça devient un fait de société. Et donc là, des attaques ou des agressions au couteau, on voit qu'elles se multiplient. Alors, elles ont existé dans notre histoire. On parlait au début du XXe siècle, les Apaches à Paris, sur les fortifications, les surineurs, etc., etc. Mais on a un regain de ce type d'attaque, mettant aux prises des individus qui sont très jeunes, parfois pour des motifs très, très futiles, hein, c'est rixes. Donc ça, c'est un exemple assez marquant pour l'opinion publique, mais on a d'autres types de violences aussi qui se banalisent et qui se diffusent dans la société. Si on reprend et qu'on regarde un peu cliniquement les choses à Crépol, on voit par exemple que la première victime a été un vigile. Et donc, pour ceux qui ne savaient pas, on apprend que désormais, les célèbres bals de village ou les fêtes populaires, eh bien, pour qu'elles se déroulent dans des conditions relativement normales, doivent être encadrées par des services de vigile ou de sécurité. Hein, donc ça dit bien cette montée des tensions dans la société française, qui se sont, encore une fois, illustrées tout au long de l'année.
Et dans vos études sur l'analyse de l'opinion publique, est-ce que vous sentez que la société française est une société qui a peur, qui est angoissée ? Comment est-ce que vous voyez cette éventuelle progression de la peur, de ce sentiment d'angoisse sur la durée ?
D'ailleurs, est-ce un sentiment ? Parce que je me permets d'amener un éclairage. Quand la Première ministre a parlé d'un sentiment de la violence qui augmente, le Président de la République et Gérald Darmanin ont parlé de décivilisation. Et encore, il y a quelques jours, Emmanuel Macron assume le terme de décivilisation.
Oui. Alors oui, alors, j'ai tout un chapitre sur ce phénomène de décivilisation dans le livre. On va trancher le débat sur sentiment ou pas sentiment. Le fait même qu'il y ait un sentiment d'insécurité, c'est un fait social. C'est-à-dire que quand une majorité de la population est inquiète, a peur, se dit que pour un mauvais regard, on peut prendre un coup de couteau, que le chauffeur de bus ne va pas oser faire une réflexion à quelqu'un qui se comporte mal dans son bus, que des enseignants exercent leur droit de retrait, que 70% des élus, enquête qui était rêvée, sondage qui était publié au moment du congrès de l'Association des maires de France, ont été victimes d'incivilité. On voit bien ces phénomènes-là. Donc j'évoque aussi des statistiques dans le livre, parce que parfois, on casse un peu le thermomètre. Si vous regardez le nombre de pompiers qui sont agressés en mission, le nombre de policiers qui sont blessés en mission sur 15 ou 20 ans, les chiffres augmentent. On peut prendre un baromètre qui vaut ce qui vaut, c'est le nombre de détenus en France. On peut dire c'est parce que la justice fonctionne mieux, elle est plus sévère. On peut aussi dire c'est parce qu'il y a plus de clients à mettre sous les verrous. On était à 50 000 détenus emprisonnés en 2002, au moment où Jean-Marie Le Pen accède au second tour de la présidentielle. On a plus de 70 000 aujourd'hui, sachant qu'à l'époque, nous n'avions pas inventé le bracelet électronique qui est porté par 14 000 personnes en France. Et donc rien qu'à cette aune-là, on voit bien la montée des choses. On a parlé rapidement des émeutes. Le bilan des émeutes, en nombre d'interpellations, en nombre de policiers blessés, en bilan des dégradations, est beaucoup plus élevé que celle de 2005, qui s'était produite sur 3 semaines, alors que cette année, les émeutes n'ont duré que 6 jours. Donc on voit bien qu'il y a une montée objective de ce type de problème.
Alors, la question débattue du lien entre insécurité et immigration était présente tout au long de l'année. Lorsque le ministre de l'Intérieur, par exemple, dira au moment des émeutes du Stade de France, pardonnez-moi, c'était l'an passé, c'est les supporters britanniques. Et lorsqu'il dit cette année Kevin et Matteo pour parler, pour évoquer le prénom des émeutiers, ou encore plus tard la querelle des prénoms après Crépol, qu'est-ce que le commun des mortels comprend lorsque de tels termes sont utilisés pour nommer la réalité ?
Alors, mais le commun des mortels, comme vous dites, il observe tout cela, et donc chacun se fait son opinion sur les choses. Sur la question du Stade de France, une majorité de Français a vite regardé les images, et d'après ce qu'elle connaît ou sait de cet endroit, elle a vite conclu que les supporters anglais avaient bon dos, et que c'était pas ça qui avait été majoritairement à l'origine des difficultés. Sur la querelle des prénoms utilisée par le ministre de l'Intérieur au moment des émeutes, on a, pour les gens qui suivent un peu ces sujets, quand on a vu les analyses de comparution immédiates, on voit que le profil est assez varié de ces émeutiers. Alors la première caractéristique, c'est que ce sont quasiment tous des garçons. Donc c'est un fait important. Deuxièmement, qu'ils sont très jeunes, 18 ans à peine. Et troisième caractéristique, avec une surreprésentation de personnes issues de l'immigration. Mais quand on dit surreprésentation, ça veut dire pas forcément tous étaient issus de ce type de famille, mais une partie significative. Ce qui s'analyser de la manière suivante, ce sont certains types de quartiers qui se sont embrasés, des quartiers dans lesquels ces populations sont surreprésentées, premièrement, et deuxièmement, il y a eu un effet d'identification assez immédiat d'une partie, je dis bien d'une partie de ces jeunesses à la figure du jeune Naël, en termes d'âge, en termes d'identité, c'était un garçon, et aussi en termes d'origine, etc. Rappelez-vous, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de sportifs, artistes, issus eux aussi de l'immigration, qui tout de suite ont tweeté leur compassion, leur solidarité vis-à-vis de Naël, parce qu'il y avait une proximité comme ça qui s'est faite. Et donc, il faut regarder ces phénomènes en face. C'est aujourd'hui...
Qui ne regarde pas en face, pardon Jérôme Fourquet.
Alors, vous... un certain nombre de responsables où... vous savez, la formule de Saint-Exupéry qui veut dire il faut voir ce qu'on voit et croire ce qu'on voit, et dire ce qu'on voit aussi. Et donc, c'est trois étapes. Certains, parfois, s'arrêtent à l'une de ces étapes.
Mais quand on a entendu certains faire le constat ou affirmer qu'il y a deux Frances face à face, et vous avez eu une mère, une élue très courageuse, c'est la mère de Romans sur Isère, Marie-Hélène Doraval, qui est venue et qui a dit « Mais moi, il y a effectivement une partie d'habitants dans mon quartier qui fait la loi, c'est une minorité », a-t-elle dit. Et pour ces propos-là, elle a été menacée de mort, de décapitation dans notre pays en France. Qu'est-ce qu'on peut ressentir et que ressentent, selon vous, les Français par rapport à ces élus de terrain, par rapport parfois à des dirigeants, quel que soit le parti, mais là, ceux qui sont au pouvoir, qui affirment non, il n'y a pas de France, deux France qui se font face.
Alors, peut-être d'abord sur les deux France, on voit bien ce qui s'est passé dans cet affrontement, et donc il y avait une bande qui venait d'un quartier, le quartier de la Monnaie, versus une autre bande ou des jeunes qui venaient des villages environnants. Donc là, on voit bien l'opposition en termes de trajectoire. Maintenant, plusieurs choses. Comme vous l'avez dit, la maire de Romans a bien insisté sur le fait que ce fameux quartier de la Monnaie, qui connaît de très nombreuses difficultés, eh bien, il connaît ces difficultés sur le plan sécuritaire qui émanent de quelques dizaines de jeunes individus. Alors, ce n'est pas du tout pour minimiser la gravité des faits, hein, mais c'est donc pas toute la jeunesse de ces quartiers, c'est pas toute la population de ces quartiers, d'une part, et c'est même pas toute la jeunesse de ces quartiers. Je reviens encore une fois sur ma distinction entre les garçons et les filles. Il y a un très bel article du Figaro, avec une reporter du Figaro qui est allée à Romans et qui s'est notamment rendue dans la médiathèque de ce quartier, où elle n'a rencontré que des jeunes filles, pour la grande majorité d'entre elles issues de l'immigration maghrébine, qui étudiaient pendant qu'une partie, je dis bien une partie de leurs frères, se livraient à un certain nombre d'activité. Et donc le problème qui est posé dans de très nombreux quartiers, ce sont ces noyaux délinquants de plusieurs dizaines d'individus très jeunes, souvent liés au trafic de drogue, qui sont très précocement engagés dans des parcours délinquants, c'est-à-dire que quand vous avez des refus d'obtempérer et qui se terminent tragiquement un peu partout en France, par exemple, on a souvent le profil judiciaire de ces individus qui ont 16, 17, 18, 20 ans et qui sont déjà, comme on dit pudiquement, très défavorablement connus des services. Et malgré les sanctions dont ils ont été victimes ou qu'ils ont fait l'objet, ils réitèrent dessus. Le quartier de la Monnaie, à Romans, avait déjà connu par le passé des émeutes, mais également deux phénomènes de course-poursuite par la police de véhicules volés qui se sont soldés tous les deux à 5 ans ou 6 ans d'écart, donc au 2008 et 2014 de mémoire, par la mort du jeune conducteur qui à chaque fois avait 14 ou 15 ans, qui portait le même type de prénom que ceux des auteurs présumés des agressions de Crépol. Et donc on voit comment cette histoire se répète avec attention. Aussi ce qui ne se voit pas beaucoup dans les statistiques et beaucoup moins encore dans les faits divers, toute une partie de ces quartiers qui travaillent, qui réussit l'ascension sociale et qui, dès qu'il le peut, quitte ces quartiers. Oui. Alors, et là, on va reboucler avec la question de l'immigration, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ces quartiers comme des endroits totalement statiques. Une partie de la population de ces quartiers le quitte régulièrement, soit par exaspération face à l'insécurité, les problèmes et autres, et soit aussi parce qu'elle a les moyens financiers et professionnels de partir, ou pour aller éduquer ses enfants dans un autre environnement, mais ils sont remplacés par de nouveaux arrivants qui sont souvent très modestes, qui sont souvent, la plupart du temps, issus de l'immigration, parce que personne d'autre ne veut habiter dans ces quartiers. Et donc, c'est un espèce de recommencement
pour
permanent.
Pour illustrer ce que vous dites, Jérôme Fourquet, il y a eu l'exemple aussi cette année de la jeune Sokaina. Oui. Cette jeune femme à Marseille qui a été tuée chez elle, dans sa chambre. Et quand sa mère est arrivée, elle a décrit de manière tragique une scène de guerre. C'était une jeune fille qui étudiait
le droit.
Donc voilà l'exemple, je peux dire, vraiment quelqu'un qui voulait s'en sortir par le mérite et finalement qui est victime chez soi, c'est-à-dire dans le lieu le plus protégé qui soit, d'une balle perdue, probablement d'un trafiquant.
Oui, et donc on a eu à peu près le même drame à Dijon, quelques semaines plus tard, où un père de famille d'une cinquantaine d'années, réfugié albanais, qui était aussi lui victime d'une balle perdue. Sur le drame de Sukaina, sa maman a eu ses propos. Je croyais que nous n'étions pas en Colombie. Et donc c'est intéressant ce propos parce que ce que ça met en exergue, c'est aussi le poids du trafic de drogue dans ces quartiers. Encore une fois, le fait d'une minorité d'individus, mais qui prennent le contrôle de ces quartiers. Et la référence à la Colombie n'est pas anodine, puisque c'est un pays des cartels. Et donc, à bas bruit, et parfois de manière beaucoup plus sonore, on voit cette influence du trafic de drogue s'implanter dans tous ces quartiers et prendre en otage, y compris des familles issues de l'immigration qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de réussir leur parcours d'intégration dans la société française, mais qui est rendu beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'hier dans ces quartiers.
Ce que vous décrivez renvoie en fait à l'impuissance publique, parce que ces bandes, ces trafics, etc. sont connus et néanmoins continuent d'opérer.
Alors, les pouvoirs publics restent pas les bras ballants. D'aucuns disent.
Non, mais il y a une espèce de sentiment.
Oui, alors on va avoir ce sentiment, mais il se passe néanmoins des choses. Ensuite, la société française, dans sa globalité, doit aussi se regarder en face. C'est-à-dire que pour qu'il y ait 4000 points de deal en France,
il y a des consommateurs.
Il faut qu'il y ait une armada de consommateurs gigantesque qui alimente. Et donc, il y a assez peu de communication. Parfois, le ministre de l'Intérieur se disait voilà, si on veut lutter contre les points de deal, nous, on fait notre travail, mais il faut arrêter de financer le deal comme ça se fait aujourd'hui.
Une courte pause, Jérôme Fourquet, ce sera notre dernière partie. Alors restez avec nous sur CNews et Europe 1, puisque là, on va voir vraiment le visage, à quoi pourrait ressembler la France d'après. C'est votre géographie électorale. À tout de suite. La dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec Jérôme Fourquet, notre invité ce dimanche, politologue, directeur du département opinion de l'IFOG. Et Jérôme Fourquet, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. On a cité La France d'après, on pourrait citer aussi le livre où vous avez théorisé l'archipel français, évidemment. Et justement, dans l'archipel français, vous avez mis en avant les évolutions démographiques dans certaines zones, territoires en France, notamment en Seine-Saint-Denis. Depuis ce livre, est-ce qu'il y a eu une accélération, justement, une évolution, voire un basculement?
Alors, il n'y a pas forcément d'accélération, il y a une poursuite des courbes, si je puis dire. Et la démographie est une science qui, par certains aspects, s'apparente un peu à la climatologie. C'est-à-dire que c'est la science du diesel. Hein. On voit les choses au long cours se dessiner progressivement. Une fois que les dynamiques sont enclenchées, elles se déploient. Et donc, on voit ces modifications démographiques liées à l'immigration, notamment en Seine-Saint-Denis. On avait utilisé l'indicateur des prénoms qui sont donnés aux enfants qui naissent en France. Et si vous prenez le pourcentage de nouveau-nés recevant un prénom arabo-musulman, en Seine-Saint-Denis, c'est 51% des nouveau-nés aujourd'hui. Donc on était à 45% il y a quelques années. Donc le trend, comme on dit en bon français, se poursuit.
Jean-Luc Mélenchon, on reste sur ce visage de la France d'après. Jean-Luc Mélenchon, lors de la manifestation, je crois, Place de la République, oui, en soutien à la cause palestinienne, quand il poste cette fameuse photo avec des drapeaux autres que français, il affirme, il dit, c'est ça la France. Alors pour lui, j'imagine, évidemment, c'est le symbole de la France créolisée qui vote massivement pour lui. Est-ce que cette image qu'il a mise en avant, c'est aussi une réalité de la France aujourd'hui ?
Alors, effectivement. Alors, rappelons aussi qu'on avait scandé Allah Akbar dans cette manifestation. C'est pour ça aussi que la photo de Jean-Luc Mélenchon et son propos avaient été critiqués par certains. Jean-Luc Mélenchon, je pense, fait un constat clinique de l'état de la société française. Il a observé très attentivement les résultats électoraux de la dernière élection, où il atteint 45% au premier tour en Seine-Saint-Denis, sur l'ensemble du département, beaucoup plus encore dans les quartiers populaires et les cités de ce département. Il fait, dans le département francilien des Yvelines, 65% des voix à trappe. Et donc, on peut regarder ce qui se passe à Bron, à Vénissieux, etc., etc. Les études de l'IFOP ont montré que 69% des Français de confession musulmane avaient voté pour lui au premier tour. Et dans l'archipel français, on n'a aucune autre île ou aucun autre îlot qui a voté de manière aussi unanime et homogène pour un candidat. Et donc, ce faisant, il défend certes sa théorie de la créolisation, mais il prend acte de cette réalité sociologique et électorale. Et cette réalité sociologique électorale éclaire et explique en bonne partie ses prises de position sur ce type de sujet au cours des dernières années, et notamment depuis le 7 octobre. Il a aussi observé que il avait raté la qualification au second tour de 400 000 suffrages, c'est-à-dire 7 bulletins de vote par bureau de vote en France. Et ils ont observé chez LFI que l'abstention était traditionnellement plus élevée dans ce type de quartier. Et ils ont tiré la conclusion qu'il fallait, comme ils le disent, parler dru et cru pour dégeler ces abstentionnistes. Dans les temps jadis du marxiste, on parlait de l'armée de réserve. Et donc il y a une armée de réserve, pense-t-il, chez les abstentionnistes, et que ce sera eux qui donneront la clé de la qualification la prochaine fois.
Mais justement, est-ce qu'au moment, on fait référence à la séquence du 7 octobre, est-ce que c'est en brandissant, en revendiquant le drapeau palestinien, en s'engageant aussi fermement dans cette cause, Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il fait le calcul que cette cause est susceptible de pousser beaucoup d'abstentionnistes à s'engager dans les politiques françaises? Donc, autrement dit, le passage par le drapeau palestinien pour être capable de gagner la présidentielle, à tout le moins de s'y qualifier.
C'est le calcul qu'il fait. Je ne suis pas convaincu que pour dégeler, entre guillemets, ces abstentionnistes, notamment dans ces quartiers, le fait d'épouser de manière totale la cause palestinienne soit la clé qui permette de dégeler cet électorat. Ce qu'avait fait aussi Jean-Luc Mélenchon dans sa campagne, c'est qu'il avait parlé de ce type de sujet, mais aussi beaucoup d'économique et de social, et qu'il y a bien évidemment aussi, parce qu'on parle de quartiers populaires, une attente sociale très forte dans ces quartiers sur l'accession à l'emploi, sur la revalorisation des minima sociaux, sur le SMIC jeune. Donc c'est en mêlant tout ça. Mais ce qui lui permet peut-être d'activer une autre clé plus secrète, si je puis dire, quand il prend ses positions sur le 7 octobre, c'est de se positionner comme le candidat anti-système, en jouant sur l'ambiguïté, sur la question d'un lobby juif, par exemple dans les médias, et en disant, voilà, moi je suis celui qui ose affronter le système. Et donc, plus encore que la cause palestinienne, c'est le fait d'être dans l'opposition au système qui peut être une clé pour aller parler à une partie de cet électorat qui regarde de manière très distanciée l'actualité et la vie politique.
Mais alors, vous venez de suggérer, en utilisant une référence explicite ou implicite à un certain lobby juif, ça présuppose qu'une partie de l'électorat, et cet électorat, je devine, est sensible à ce thème assez sous-entendu.
En partie, mais plus globalement, dans une logique d'anti-système. En tant que les puissants, les gros, le système médiatique, le système politique, si je suis Mélenchon, m'accable, me cible. Quand je suis sur un plateau, on ne me fait aucun cadeau, aucune concession. J'ai un traitement que d'autres politiques ne doivent pas subir. Et donc, c'est bien la preuve que je suis le paria. Et vous-même...
C'est Jean-Marie Le Pen, il y a quelques années.
Voilà, vous-même qui êtes le paria, qui êtes les parias dans vos quartiers, eh bien, vous avez trouvé votre héros.
Mais en même temps...
Jean-Luc Mélenchon fait 45% au premier tour des voix des détenus en France. 45% chez les détenus. Donc il parle, quand il dit la police tue, il parle à toute cette France-là. Ouais. Et vous parliez de Jean-Marie Le Pen. Le titre de mon livre, c'est « La France d'après », pour montrer comment nous avons basculé dans autre chose. Et sur ces questions-là, les évolutions sont assez saisissantes. 1990, c'est la grande manifestation après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque l'arc républicain se mobilise derrière François Mitterrand et tout le monde défile. Et le paria à l'époque est Jean-Marie Le Pen et son parti. Le slogan qu'on scande dans cette manifestation, c'est « Le Pen, les mots, Carpentras, les larmes ». 30 ans plus tard, après le 7 octobre, dans la grande manifestation de défense de la République et de lutte contre l'antisémitisme, le Rassemblement national a eu le droit de défiler et c'était LFI et Jean-Luc Mélenchon qui désormais étaient mis au banc de l'arc républicain. Et donc on voit comment
a eu tectonique... le droit, c'est arrogé le droit, parce voilà. Que pour certains, c'est pas le bienvenu.
C'est bien le RN qui finalement est le grand gagnant de la radicalisation de Mélenchon, au fond.
Alors, en partie, puisqu'il le recentre quelque part, et on le voit bien, alors là, très clairement, dans les enquêtes d'opinion, si vous prenez les sondages de cote de popularité ou les sondages plus qualitatifs, où on teste des traits d'image sur est-ce que tel ou tel a la stature d'un président, est-ce qu'il vous inquiète, est-ce qu'il vous rassure, est-ce qu'il peut rassembler les Français. Bien, vous voyez que le différentiel entre les scores de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sur ce type de questions... C'est singulièrement accru ces dernières années. Et la séquence, comme on dit en communication, qui s'est ouverte après le 7 octobre, n'a fait qu'accentuer le phénomène.
Alors Jérôme Fourquet, qui dit France d'après dit France d'avant. Il y a aujourd'hui une forme de nostalgie qui est parfois attaquée de cette France d'avant, de l'école d'avant, des comportements d'avant, de la civilité d'avant, estime beaucoup. Est-ce que c'est pour vous une nostalgie qui est lucide? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train d'embellir un passé qui n'était pas aussi rose que ça?
Alors, je pense que, comme toujours, la mémoire nous joue un peu des tours. Et quand vous dites, quand on est un peu plus jeune, c'est intéressant parce que cette nostalgie des années 60, c'est quoi comme période? C'est la période où une grande partie de la population française a été jeune, puisque nous avons un poids des seniors qui est aujourd'hui assez important. Donc, même s'il y avait des bons côtés dans cette période-là, il ne faut jamais oublier que cette nostalgie un peu collective dans laquelle nous semblons baigner s'explique aussi démographiquement et psychologiquement par le fait que les baby-boomers, qui sont très nombreux aujourd'hui en France, quelque part regardent avec des lunettes parfois peut-être un peu teintées de rose leurs belles années et se souviennent de cette France dans laquelle ils ont été jeunes.
Mais
aussi.
Si je peux me permettre, même la jeune génération va dire que parfois nous sommes nostalgiques d'une France que nous n'avons jamais connue. Et cette nostalgie est présente même pas chez les baby-boomers, mais chez leurs petits-enfants.
Oui, mais parce qu'ils ont baigné aussi dans ce récit qui a été le fait, qui était quand même beaucoup porté par ces fameux baby-boomers hein, qui avaient, vous voyez par exemple, la programmation d'un certain nombre de chaînes musicales où on renvoie sur les années 60, 70, 80, etc. etc. Tout ça, ambiance, comme diraient les jeunes, en partie ce phénomène, même si, objectivement, quand on parlait de civilité, on parlait de plein emploi, etc., etc., un certain nombre d'indicateurs étaient plus attractifs à l'époque qu'ils ne le sont aujourd'hui, avec, n'oublions pas, quand même, on parlait des baby-boomers, donc il y a une espérance de vie qui a considérablement augmenté, il y a une qualité de vie qui n'est pas celle aujourd'hui que nous connaissions hier. On parlait des quartiers populaires ou autres, quand vous voyez l'élévation moyenne du niveau de vie, il y a quand même des choses qui ont changé. Hein. Dans toute une partie des milieux populaires, la pénibilité du travail, même si elle n'a pas disparu, par rapport à ce que c'était à l'époque, etc. Vous parlez du statut des femmes, là aussi, il y a énormément de choses qui ont changé. Mais donc, voilà, il y a ce regard nostalgique, en partie, je pense, justifié, mais qui est sans doute aussi embelli par des effets générationnels assez puissants.
Merci Jérôme Fourquet. Merci d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Je remercie mes camarades, évidemment, Nicolas Barret, merci à vous, Mathieu Bock-Côté, merci également. On va souhaiter ensemble de belles fêtes à nos téléspectateurs et auditeurs, un joyeux Noël et une pensée collective à tous ceux qui traversent une période difficile, qui sont seuls dans cette période de rassemblement. Donc merci aussi de votre fidélité et à très bientôt.